las conferències de la 30a Universitat Occitana d'Estiu registrada e prepausada per Radio Languedoc. René Doumergue, sociologue, nous présente la conférence L'arribade des Pays Nègres d'Ingar.
Je recueille soigneusement la parole des gens et je la retranscris en préservant ce langage qui est imprégné d'occitan, bien sûr. C'est pour ça, très rapidement, hein, dans un premier temps, j'avais étudié les paysans de mon village. Je comptais d'ailleurs faire un petit document qui allait être interne au village. Je ne pense pas que ça deviendrait un livre. Et ça, c'est la vie sociale des paysans. Après, on m'a dit, mais tu t'es pas bien occupé des Italiens, des Espagnols qui sont venus au village. J'avais expédié cela en 3 pages. Hein. J'ai commencé à gratter le sujet et c'est devenu un livre entier consacré aux Italiens et aux Espagnols. Mais plus que ça, aux étrangers. C'est une notion qui va devenir importante pour le livre suivant, aux étrangers, qui sont tous ceux qui ne sont pas d'ici. Hein, c'est d'ici. Alors, à partir de quel moment on est d'ici, c'est-à-dire d'un village. Alors, d'après les anciens de mon village, je dirais souvent les vieux, hein, parce qu'eux se désignent ainsi. D'après, ils disent qu'il faut 3 générations pour être d'ici. Je pense que ça a un sens pour eux. 3 générations, c'est, à partir de 3 générations, on perd un peu la mémoire de l'arrivée. On ne sait plus qui est arrivé dans la famille quand tout ça se mélange et donc on devient d'ici. Mais j'ai tiré le fil, je me suis dit, mais avant les Italiens et les Espagnols qui étaient arrivés ici, ben, il y avait des Cévenols, il y en avait beaucoup. Ethnographiquement, par le recueil de la parole, j'en ai retrouvé beaucoup vers 1900-1920, mais ma collègue Jacqueline Grenet, qui est historienne, a travaillé sur les généalogies du village. On en voit arriver depuis le 18e siècle tout au moins, et peut-être bien avant, mais... Il y a des gaveaux partout dans les familles du village, ce qui n'empêche pas de mépriser les gaveaux, on y reviendra. Et donc, l'étranger, c'est aussi le Cévenol qui arrive, ou le Rayau, qui arrive de Quissac. Moi, mon village, c'est Montpesa. Il arrive de Quissac, à 20 km de là, d'au-dessus d'Alès, c'est vraiment... Pour nous, Rayau-Gaveau, c'est à peu près pareil, d'ailleurs. Selon mon parrain, un rayau, c'est un demi-gaveau. Voilà, si on doit mettre ça en équation. Mais aussi l'étranger, c'est celui qui vient du village voisin. Hein. Ma mère vient de Saint-Étienne-d'Escac, qui est à 5 km de Montpesa. Quand j'ai travaillé sur les étrangers, je lui ai dit, mais quels sont les étrangers au village? Elles m'ont dit, ben moi je suis une étrangère, d'abord, et c'est toutes celles à qui on dit madame. Effectivement, il y avait des personnes à qui on disait madame, qui étaient des gens du peuple très simples, qui allaient faire leur commission en blouse, en pantoufles, et tout, et la fille de bonne famille du village qui était depuis 10 générations, on lui disait tu. Hein, c'est intéressant cette inversion des rapports sociaux. Madame a signalé l'étrangère. On venait de Combas à Montpesa, Madame Chaze, qui venait de Combas à Montpesa et qui était une personne extrêmement décontracte, habillée un peu n'importe comment, sans façon, dirons-nous. C'était Madame. Voilà. Alors, l'étranger, moi, à mon sens, c'est un concept, c'est bien un grand mot, mais c'est intéressant parce que ça désigne pas seulement celui qui est d'au-delà des frontières, c'est celui qui n'est pas du village. Et alors, le pied noir est un étranger, ce qu'il apprécie mal. Hein. Il n'aime pas qu'on lui dise ça parce que je conclurai sur ces choses-là parce que pour lui, il y a incompréhension. Alors, donc je tire le fil, j'arrive avec les Italiens, les Espagnols dans les années 60. Je tire le fil, ben, le grand événement, c'est l'arrivée des pieds noirs. Pour simplifier, on dit en 62. En fait, certains sont arrivés un peu avant et d'autres arrivent un peu après. Alors, concernant les chiffres, je serai plus précis dans le compte rendu. D'après ce qu'on peut lire, c'est entre, en France, c'est entre 650 000 et 1 million. Si on regarde les recherches de Jordi, c'est on en a 650 000 qui arrivent d'Algérie en 62, plus 150 000 un peu avant. Mais il y en a qui arrivent après, il y en a qui viennent de Maroc, du Tunisie, comme on doit compter, c'est très compliqué. Et puis ici, on a une historien, on a la chance d'avoir Didier Lavru, qui a fait des recherches qui vont paraître dans un colloque, dans les actes d'un colloque à la Société d'Histoire contemporaine, dont je donnerai les références, et qui chiffre, alors je lis, 25 000 pieds noirs arrivent dans le Gard durant l'été 62, beaucoup repartent, certains reviennent. En 63, ça se stabilise un peu et on compte dans le Gard entre 15 000 et 17 000 pieds noirs, dont la moitié à Nîmes, probablement autour de 2 000 à Alès. Ça fait quand même une pression très importante, hein. Ça se passe en un an. A priori, l'intégration des pieds noirs est excellente, si on prend des critères sociologiques, un peu macro, si vous voulez. Tout le monde a un ami pied noir. Lorsque je faisais mes recherches sur les pieds noirs, et je demandais, au début, je demandais, est-ce que tu peux me présenter un pied noir? Parce qu'il faut pénétrer le milieu, évidemment, et établir une forte intimité avec les gens qu'on interroge. Et bon, bah, tout le monde m'a présenté un cousin pied noir, un beau-frère pied noir, un ami pied noir, un voisin pied noir. Il y en avait un moulon, on va dire. Et si bien qu'à la fin, j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup trop de monde à interroger. En revanche, maintenant, pour vous donner une idée, je continue à tirer le fil, je travaille sur l'arrivée des Maghrébins dans les villages. Ben, je vous garantis que les contacts sont drôlement plus difficiles à établir. Je demande à tout le monde autour de moi, comme je l'ai fait pour les pieds noirs, est-ce que tu connais des Maghrébins? Ouais, plus ou moins, tout le monde connaît un Maghrébin. Mais est-ce que tu peux me le présenter? C'est-à-dire, on peut établir un lien d'intimité avec. Eh ben, c'est quasiment tout le monde se défausse. Même quasiment tout le monde, je dois dire tout le monde, je crois, pour l'instant. Voilà. Bon, t'en touches, oui, c'est difficile, c'est pas le moment. Enfin, alors que les pieds noirs, c'était facile, c'était le moment. Donc, il s'est bien passé quelque chose de différent. Ils sont arrivés à la même époque, pourtant. Enfin, si je dois simplifier. En fait, les Maghrébins, ils étaient bien avant les pieds noirs. Et puisque dans les mines d'Alès, ils y étaient depuis un siècle. Si on regarde les statistiques des mariages. Enfin, les statistiques, j'ai pas chiffré précisément, mais c'est d'une telle évidence que c'est pas la peine de passer 6 mois de ma vie à établir des statistiques. Les pieds noirs se marient dès leur arrivée. Dès leur arrivée, dans mon village, par exemple, il y a un mariage dès les deux premières années, peut-être dès la première année, il y a un mariage entre deux pieds noirs et des filles du village, et d'ailleurs des jolies filles. Bon, pas des filles de pélo, hein, pas des filles de pélo. Mais bon, le mariage ne pose pas vraiment de problème. Alors que, ne parlons pas des mariages avec les Maghrébins, mais avec les Italiens et les Espagnols, ça a posé d'énormes problèmes. Il a fallu 3 générations pour que la situation se stabilise. La première génération, pour les Italiens, les Espagnols que j'ai vus, qui arrivent à partir des années 20, hein, dans mon village et dans les villages environnants, lors de la première génération, ceux qui arrivent, se marient très souvent ou avec des Italiennes, des Espagnols qui sont arrivés en même temps qu'eux ou un peu plus tard, ou alors ils vont chercher les conjoints au village. C'est-à-dire en Italie, en Espagne c'était plus difficile, mais pour les Italiens, souvent en Italie. Deuxième génération, il y a des mariages qui se font, mais ça pose problème. Par exemple, combien de fois j'ai entendu l'expression « Saïk, on me disait, Saïk, tu ne vas pas te marier avec un babi ». Saïk vas pas te marier, ou alors en occitan, en patois, Saïk vas pas te marier and un babi. Hein, Saïk, tu vas pas te marier avec un Italien. Ce que les Italiens concernaient, hein, je les ai retrouvés encore, ça se passait dans les années 30, 40, on peut les rencontrer encore. Interprète cela comme, bon, on va dire du racisme, entre guillemets, de la xénophobie, etc. Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué parce que, ben, à l'Italien en question, je lui ai dit. Et c'était un Italien qui était amoureux d'une fille de pélo. Pas un gros, mais enfin, bon, il devait avoir un cheval, un ouvrier agricole. Bon, allez, à Montpezat, à l'échelle de Montpezat, c'était la petite bourgeoisie. Donc pour lui, c'était vraiment du racisme, et c'était, la démonstration était éclatante, alors que ça s'est passé il y a 50 ans. Hein. Même plus. Je lui dis, et tu crois que si elle avait voulu se marier avec... avec un ouvrier agricole français, ça n'aurait pas posé problème? Il me regarde, il me dit, ben oui, vous avez compris. C'est-à-dire que, en fait, ce que ne voulaient pas les pélos, c'est la mésalliance. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple d'Italiens riches ou d'Espagnols riches qui arrivent en France dans les années 20, 30, 40, 50, 60, qui désirent se marier avec une fille de pélo. Selon moi, ça ne se serait pas trop mal passé. Là, les parents, alors est-ce qu'ils étaient anti-italiens, racistes anti-italiens, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un bon paysan, il ne voulait pas de mésalliance, il voulait quelqu'un qui apporte des terres. Hein. Voilà, donc le racisme était instrumentalisé. Alors, les pieds noirs, alors j'en reviens aux pieds noirs. Vous voyez que pourquoi j'ai parlé brièvement de mes autres livres, parce que tout ça enchaîne. Je n'aurais pas pu faire cette analyse si je n'avais pas étudié le cas des Italiens ou des Espagnols. Les pieds noirs ne connaissent pas cela. Alors bien sûr, quand ils arrivent, c'est ça, le pied noir. C'est même arabe, on les traite d'arabes. Alors pour eux, c'est une chose, une grande souffrance. C'est pour ça d'ailleurs que le terme pied noir, qui était, selon moi, qui était, enfin selon moi, non, selon les personnes que, des personnes que j'ai interrogées. Parce qu'à force d'interroger des gens, il y a des vérités sociologiques qui arrivent, qu'on mettrait beaucoup de temps à constituer. Une qui m'a dit, parce que le terme pied noir était très péjoratif au début, de traiter quelqu'un de pied noir, c'était quasiment une insulte en 62. 63 ici, mais le traité d'arabe c'était encore pire. Alors il y a une pied noire un jour qui m'a dit à tant faire que d'être traité d'arabe, je préfère qu'on m'appelle pied noir. Je pense que ça explique un peu pourquoi cette identité pied noir s'est constituée. C'est pas toute l'explication, mais vous voyez que les associations pied noir revendiquent cela, le drapeau avec les pieds qui sont pas toujours noirs d'ailleurs, mais enfin bon. Alors, il s'est passé ça. Donc, une intégration très flagrante de ce point de vue. Sur le plan culinaire, il se passe des choses sidérantes aussi. On avait des Espagnols dans nos villages, ou des Italiens, surtout, c'est intéressant pour les Espagnols, dans nos villages depuis 1920. Certainement avant, mais c'est très net depuis 1920. Il y avait des ouvriers agricoles à Montpezat, en quantité, à Souvignargues, dans tous les villages, à Villevieille encore plus, des ouvriers maçons, à Villevieille, en pagaille. Donc, ils mangeaient la paella. Bon, peut-être pas des paellas royales, très élaborées comme on a maintenant dans les restaurants ou dans les menus de fête, mais ils mangeaient la paella. Eh bien, moi, enfant, je suis né en 1949, j'ai jamais mangé de la paella. Mais ça viendrait à l'idée de personne. La paella, c'était de la nourriture d'Espagnols. N'oublions pas que les Espagnols, c'était Espagnols de merde, pour l'essentiel, ou mangiatomate, pour des raisons assez amusantes, bon, mais Espagnols de merde. C'était tellement ancré, cette idée d'Espagnols de merde, que dans ma jeunesse, il y a une anecdote que je dois raconter. Un gamin espagnol qui était arrivé, deux frères étaient arrivés, ça devait être, moi j'avais 10 ans à peu près, 1959. Ils étaient extrêmement dégourdis. Donc un qui a appris le français, mais à la vitesse de l'éclair. Il arrivait, il parlait espagnol, le lendemain il parlait français. Le lendemain, c'est un mois ou deux après. Eh bien, il avait tellement intégré le français qu'un jour, son frère le contrariait, il a été traité d'espagnol de merde. Vous voyez donc à quel point ça devait faire partie de la culture de base de mon village, puisque le gamin a appris ça en même temps que ses premiers mots de français. Et alors, ces espagnols de merde, on va dire, ils mangeaient de la nourriture d'espagnol. Donc la paella était complètement méprisée et ne se diffusait pas. Les pieds noirs arrivent. À 1960, je ne veux pas trop simplifier, mais ils arrivent à 1962, 61, mais enfin essentiellement 62, et deux ou trois ans après, tout le monde a mangé de la paella. Il y a d'autres raisons, Il y a d'autres raisons, on voyage un petit peu plus en Espagne, il y a la feria de Nîmes, il y a bon, plein de choses. Mais enfin, quand même, sur le plan de la corrélation, c'est sidérant. Pareil pour le couscous ou les merguez. Il y avait des maghrébins dans les pays miniers. Depuis, alors je ne sais pas, depuis 1900, etc. Eh bien, vous allez à Alès et dans ces pays-là, les gens de là-bas ne connaissaient absolument pas le couscous, ne connaissaient pas les merguez, et nous encore moins. Quelques années après 1962, ben, tout le monde a mangé du couscous, des merguez. Il y avait des grillades dans la ville de Nîmes qui en boucanaient, mais enfin, bon, on s'y est mis. Alors, au début, ça surprenait, on disait « à coca ou fa, hein ». À Cocaufa. Les pieds noirs arrivent, cette nourriture se diffuse. Je ne dis pas qu'ils diffusent toute leur alimentation. Par exemple, la mouna, ou la mona, selon les interprétations, qui est une sorte de brioche, je ne crois pas qu'elle ait grande chance de se diffuser, parce que de notre point de vue, c'est de l'estoufadou. C'est de l'estoufadou. Ou il y en a qui disent du coufladou. Ah, désolé. Enfin, bon, c'est ce qu'on m'a dit. Je crois que la paella, le couscous, auront plus d'avenir que la mouna. Bon, enfin. Ça reste à l'étude, ça. Le langage, des mots comme chouïa, fissa, etc., je crois qu'ils se seraient diffusés sans les pieds noirs, du fait de la présence maghrébine, évidemment. Mais il n'empêche que c'est des mots qu'on n'entendait pas, quasiment pas, sauf peut-être à l'armée un peu, dans l'argot de l'armée, avant 62, après on les entend beaucoup. Et surtout, le mot tchatché, alors ça c'est une histoire incroyable, ce mot tchatché. Je parlais du mot tchatché, la plupart des gens d'ici, on disait, mais ça, c'est un mot d'ici, tchatché, c'est un mot d'ici. Mais je l'ai entendu, mais combien de fois? Mais mon grand-père le disait sans arrêt, avec des preuves accablantes. Et puis, je ne sais pas, quelqu'un m'a fait douter. Et puis moi, je me rappelle quand même que ce mot, je ne l'avais jamais entendu. J'ai été surpris de l'entendre au lycée technique, lorsque j'ai fait mes études. Ça devait être à peu près en 1966. Quelqu'un a employé le mot tchatché, ou il a de la tchatché, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé ce que c'était. Or, je baigne absolument dans le langage on va dire des villages, l'Occitan, le Francitan, des villages, ça ne m'aurait pas échappé, franchement. Alors, ça commençait à semer le trouble. Alors, je suis bien sûr, comme souvent, en pareil cas, je vais voir Georges Gros, et je lui en parle, il réfléchit, et puis il me dit, mais non, mais moi, j'ai jamais entendu ça dans mon enfance. Et je suis parti sur les dictionnaires de la langue française, là... de la langue française. Bon, c'est un mot voyageur qui est parti d'Espagne, qui est allé en Algérie. C'est chacharia, je prononce formal. Donc, il est parti d'Espagne, mais bon, les profs d'espagnol connaissent pas ce mot. Les profs d'espagnol de mon lycée m'assuraient que c'était pas un mot espagnol. Et donc, il est parti là, il est revenu avec les pieds noirs. Il aurait pu venir avec les Espagnols. Hein. Il n'est pas venu avec les Espagnols, il est revenu avec les pieds noirs. Alors, les pieds noirs n'avaient pas le verbe chaché. Ça, la confection du verbe est probablement un produit de notre culture. De la fabrication du verbe. Eux, ils avaient la tchatcha, hein, l'expression la tchatcha, extrêmement courante. Vous lisez n'importe quel bouquin écrit par un pied noir, vous avez ce mot-là. Ou celui-là, c'est un tchatcheur. Ça, vous l'avez. Mais le verbe, ils ne l'avaient pas. C'est nous qui l'avons fabriqué. Alors ça, c'est vrai. Enfin bon, les gens qui me disaient que tchatché, c'était d'ici, ils n'entraient pas dans ces subtilités. Hein. Ils ont diffusé quelques mots, et dont un mot qui a été extraordinairement adapté. Autre chose aussi, leur intégration économique est fabuleuse. Alors, ils ont la grande chance d'arriver pendant les 30 Glorieuses. Hein. Ça, c'est une grande chance, évidemment. Il y a du boulot pour tout le monde. Mais quand même, hein, ils mouillent la chemise, ils s'y mettent. Alors, quelques expressions que j'ai relevées, moi, que j'adore. Les gens, ils ont pas rambaillé. On te dit, ils ont pas rambaillé. Ou j'ai relevé, pour se bouléguer, ils se boulèguent. Et quand on parle des costières, les costières, avant, c'était avant. Avant dans les costières, tu y voyais que des cassaires et des bédigues, on me dit. Et c'est Dupuis qui me disait ça, le André Dupuis, que certains d'entre vous connaissent bien. Et il me disait, les paysans de là-bas, ils travaillaient pour des parpelles d'agace. Et puis les pieds noirs sont arrivés. Il y a une conjonction extraordinaire. Hein. Le baron se développait, ils avaient développé leur réseau, ils n'arrivaient pas trop à vendre leur eau. Quand les pieds noirs arrivent, on leur fait des conditions exceptionnelles, mais pas parce qu'ils sont pieds noirs, parce que c'est pour le baron, c'est où les pieds noirs s'installent, où eux font faillite. Ça m'était dit clairement par des gens du baron. Hein. Les pieds noirs leur ont sauvé la vie. Alors en contrepartie, le baron a fait des conditions exceptionnelles aux pieds noirs. Dernière étape significative de cette intégration, je fais des conférences régulièrement sur ce thème-là, et encore, chaque fois que je fais une conférence, quelqu'un intervient pour me dire « Et regardez ce qu'ils ont fait les pieds noirs !» Et il me cite le domaine de la Barbin. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce beau domaine qui se situe entre, on va dire, entre Nîmes et Quissac, hein, sur la route des Cévennes. Voilà. Et on me donne ça comme la preuve de l'activité des pieds noirs. Et a priori, c'est à la gloire des pieds noirs, puisque ce domaine est magnifique, leur vin est excellent, ils sont partis, et autour, vous voyez bien que c'est la garrigue la plus complète, ils ont déboussaillé, ils ont concassé des pierres, à une époque où les paysans d'ici n'y croyaient absolument pas, et je me rappelle ma tante encore qui me disait, mais tu crois bien que les vieux d'ici ne sont pas plus couillons que les pieds noirs, si on pouvait faire pousser de la vigne dans les caillasses, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Donc c'était l'échec programmé. Et on se foutait d'eux au départ. Il s'avère que, presque par hasard, mais ça c'est le fait de travailler sur un espace restreint, pas faire de la sociologie, la grande cavalerie sociologique. Enfin moi je vais dénoncer personne, mais enfin, il y a des gens qui font de la sociologie de bureau, le cul sur une chaise, c'est très bien rédigé, c'est très beau, c'est intellectuellement séduisant et tout, mais simplement, je me demande ce qu'ils auraient retenu de la Barbin, parce que tout le monde ici leur aurait dit que la Barbin c'était un domaine à pieds noirs, et que ça illustrait la réussite aux pieds noirs. Or, eh ben, à force de chercher, j'ai trouvé quelques personnes qui m'ont dit « Mais non, c'est pas pieds noirs, c'est pas des pieds noirs. » Et j'ai retrouvé les anciens propriétaires, parce que ça a changé de 3 ou 4 fois depuis, ça n'a pas été facile, mais enfin, bon, on y arrive. Les gens qui ont esfaté, comme on dit chez nous, le domaine, ce sont absolument pas des pieds noirs. C'est Valérian, qui est un Arménien, mais un Arménien du Vaucluse, hein, qui avait fait construire les autoroutes du sud de la France, qui avait du gros matériel, et qui avait pu, dans les creux des chantiers, utiliser ce gros matériel pour concasser les cailloux de la Barbin. Et tout le monde se souvient de la poussière énorme de ces gros engins, enfin, c'était un chantier incroyable. Et d'ailleurs, sans cela, c'était impossible, parce que c'était une ruine complète pour quiconque aurait voulu attaquer cela. Lui, il a dû s'arranger avec sa comptabilité, vous comprenez. Donc, qu'on attribue, j'appelais ça la légende de la Barbin, qu'on attribue ce domaine au pied noir, alors qu'il n'est pas pied noir, ça signifie quand même que dans l'inconscient d'ici, il y a une reconnaissance de l'activité pied noir, et je dirais même, du côté de l'aspect colon, Mais posé au sens positif, dans ce cas, dans ce contexte, du pied noir. Ils ont colonisé la garrigue au sens noble du mot colonisé. Lorsque j'ai fait relire mon manuscrit, on m'a dit « mais c'est pas la barbe ». Mais dit « ouais, mais les gens se trompent, c'est pas la barbin qui a été conçue par les pieds noirs, c'est Vanel. C'est le masque de Vanel à côté ». Moi, ça m'a déstabilisé, mais je recommence l'enquête avec beaucoup plus de difficultés parce que le propriétaire n'est plus dans le coin. Et en fait, Vanel, c'était pas plus pied noir, c'était le cousin de Valérian. Et c'était là, ça s'est fait dans le même contexte. Mais les gros travaux se sont faits, bien sûr, autour des années 60, d'où l'assimilation. Une autre assimilation, c'est qu'à un moment, le domaine a été pied noir, mais bien avant, et le pied noir avait gardé des bédigues et il n'avait rien fait d'autre. Hein. Et si les gens d'ici avaient voulu être méprisants à l'égard des pieds noirs, Pour constituer la légende, ils auraient choisi Vanel. Ils n'auraient pas choisi la barbin. Vanel, vous passez à Vanel maintenant. C'est la désolation la plus complète. Il y a des terres abandonnées, de la garrigue avec des ronces. Enfin, c'est l'abandon complet. Et si on a choisi, si c'est la barbin qui est choisie et non pas Vanel, alors qu'il y avait le choix finalement. À mon sens, ça exprime des choses. Et pourtant, à côté de ça, lorsqu'on gratte un peu, encore aujourd'hui, on entend des choses abominables à l'égard des pieds noirs. Les pieds noirs, c'était les sales pieds noirs, c'était les Arabes. On refusait facilement de leur louer des appartements. On leur faisait payer des loyers très élevés. Quand on leur a vendu des maisons, on les a attendus au tournant, on les a pas manqués. Sauf exception. Bon, on ne les a pas traités à coups de pierre, hein, mais il y a eu une absence de compassion totale. Si je regarde dans mon village, j'interroge mon copain Yvon, parce que j'ai des amis d'enfance aussi, pieds noirs, avec qui j'ai parlé, ça fait 15 ans que je parle et que je recueille les informations. Mon ami Yvon, qui a tendance à positiver, c'est un brave garçon, il a tendance à positiver, il vous dit, alors oui, j'ai de bons souvenirs, un tel m'a donné un manteau, une telle à la tite, elle m'a donné un manteau un hiver où il faisait si froid, Henri m'invitait à voir la télévision, et il va vous donner deux, trois exemples comme ça. Et bon, on pourrait penser que c'était l'accueil était très chaleureux. Ouais, mais à côté de ça, à d'autres moments, vous apprenez que ces gens-là, ils vivaient dans une turne, bon, et des maisons de vendangeurs, ils ont loué ce qu'ils trouvaient à louer, bon, pourquoi pas. Mais il a fait très froid l'hiver où ils sont arrivés, ils n'avaient pas de bois pour se chauffer. Du bois dans les villages, mais il y en avait partout, de partout, comme on dit ici, des vieilles souches. Il y en avait un tas partout dans les vignes, il n'y avait qu'à se baisser pour en ramasser. Et je me souviens qu'un jour, le père avait ramassé des souches. Alors, il n'avait pas demandé la permission, il avait vu des souches qui traînaient sur le bord. Il avait ramassé des souches, il s'était fait considérer dans le village comme un voleur. Bon, d'accord, il ne maîtrisait pas la coutume villageoise qui convenait, qui faisait qu'on devait demander la permission au propriétaire. Hein. Le propriétaire qui devait la donner, dans ce cas, s'il ne faisait rien de ses souches. Mais enfin, il y avait une absence complète de compassion et personne n'est allé lui apporter du bois. Personne ne lui a proposé du bois. Ces gens-là ont eu froid tout l'hiver. Et en même temps, mon copain Yvon, il vous explique que pendant toute une année, ou enfin pendant des mois en tout cas, ils ont mangé, la table c'était une caisse d'orange, retournée, et ils étaient assis sur des gamates. Le père était maçon, hein. Les gamates c'est les anges des maçons. Ils ont vécu assis sur des gamates. Alors que il suffit, enfin, je ne sais pas si tout le monde imagine bien que au fond des remises dans les villages, dans les greniers, etc., il y avait des vieilles tables, il y avait des vieilles chaises, il y avait peut-être pas des salons et des canapés, hein, mais il y avait de quoi leur fournir sans que personne se prive. Or, ils n'ont pas eu ça. Il y a eu, on peut dire aucune compassion, il y a eu quelques gestes symboliques, si vous voulez, mais vraiment, c'est pas allé loin. Donc, on comprend que les pieds noirs aient de très mauvais souvenirs de cette époque-là. Je dis pas que les pieds noirs n'y sont pas un peu pour quelque chose, évidemment, dans ce malentendu. Un des éléments, c'est que, alors que les Italiens ou les Espagnols s'amataient, et là on voit les lacunes du français, parce qu'on n'a pas de mot français pour exprimer cela, ils s'amataient, s'écrasaient, c'est vulgaire, c'est pas ça. Ils se faisaient tout petits, ils disparaissaient. Lorsqu'ils étaient confrontés, je sais pas, au racisme ordinaire, allez les babis, vous venez, ou les mandiatomates, on se moquait un peu d'eux, etc., ils s'amataient. Les pieds noirs, pas tous, mais certains pieds noirs, eux, là aussi, j'ai pas le mot français, exactement. Les pieds noirs, ils rapoutaient. Les pieds noirs, ils se laissaient pas faire, on pourrait dire, ils répliquaient. Alors, il y a cela qui a joué et qui a donné un peu, pas tous les pieds noirs, hein, pas tous les pieds noirs, mais certains, à Poutégué. Une des raisons, me semble-t-il, est d'ordre socio-économique, c'est que les Italiens, les Espagnols, c'était des ouvriers, agricoles, des ouvriers maçons, ils étaient tout en bas de la hiérarchie sociale du village, ils n'étaient rien, ce que j'ai compris en faisant mes recherches, c'est que les pieds noirs étaient la structure sociale. Des pieds noirs étaient à peu près la même structure sociale que la société française. Hein, il y avait des artisans, il y avait des commerçants, il y avait des employés, il y avait des agriculteurs, plus ou moins des grands, des pélos, là-bas les colons, des petits, des tout petits colons aussi. Il y avait des gardes-barrières, il y avait toutes sortes de gens. Mais, donc, il y avait quand même des gens qui étaient à un certain niveau socio-culturel, et ces gens ne se laissaient pas faire. Et quand ils ressentaient une agression, ils rapoutaient. Cela d'autant plus... et ça dépend des individus, là encore, il ne faut pas généraliser, qu'ils avaient un lourd contentieux à l'égard de la France, bien entendu. Ils avaient, de leur point de vue, je prends le point de vue pied noir, mais je crois qu'on peut tout à fait les comprendre. À l'école, on leur avait toujours dit « l'Algérie, c'est la France ». Pour eux, la France, c'était la mère patrie. Pour eux, leur grand-père sont venus en 14, ils sont venus en 40. Dans leur famille, il y a des gens qui ont été tués. Vous comprenez, pour eux, on devait les accueillir. Ils étaient chassés de là-bas, ils perdaient leur pays, et ils s'attendaient à ce qu'il y ait de la compassion. Or, c'est pas du tout ce qu'ils ont trouvé, et même, ça s'est très mal passé dès l'arrivée. Il y a des gens qui sont dévoués à fond, mais parfois, vous savez, dans le milieu des dockers, on était très anticolonialistes, et je sais pas, il m'appartient pas de faire de réfléchir sur le rôle des pieds noirs dans la société de là-bas. Je veux pas le faire. Ce que je sais, c'est que ces gens étaient en situation de désarroi complet et que quand ils sont arrivés, il y a pas eu de pitié à leur égard. Ce qui explique d'ailleurs la rumeur des cadres. La rumeur des cadres. Les cadres, c'est les containers. Les containers dans lesquels ils mettaient leurs meubles. Et si vous allez dans le milieu pied noir, il y a une rumeur extrêmement prégnante, un pied noir sur deux, on va dire, qui vous raconte que les dockers de Marseille ou de Sète ou de Pourvendre balançaient les cadres à l'eau. Ou alors, selon les variantes, hein, ils simulaient un accident. Alors, en fait, on comprend qu'ils ne les balançaient pas à l'eau, mais qu'ils se débrouillaient pour faire une fausse manœuvre, que le cadre trempe et qu'il remonte à la surface, et que donc tout le linge soit trempé, les meubles abîmés, ce qui fait que ça, en stagnant sur les docks pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, des fois le temps qu'il fallait pour s'y retrouver dans cette pagaille monstrueuse, donc tout était pourri. Et cette rumeur, un pied noir sur deux, la véhicule, il s'avère que... Bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur la rumeur de Nîmes, la rumeur des inondations, hein, ou sur laquelle il y aurait à Nîmes des centaines de morts suite aux inondations. Et ce livre m'a beaucoup aidé pour réfléchir, parce que je suis à l'égard, tout comme à l'égard de la Barbin, j'ai été très vite sceptique, enfin, non, pas très vite, hein. Mais enfin, dès que j'ai entendu quelque chose, je me suis accroché à cela et j'ai réagi. Pour la rumeur des cadres, j'ai été sceptique rapidement, et j'ai dit aux gens... est-ce que ça vous est arrivé à vous? Alors non, ça ne leur est pas arrivé à eux. C'est arrivé au cousin. Hein, bon, vous avez compris. Et est-ce que tu peux me présenter le cousin? Ah, le cousin, il n'est plus là, etc., etc. Et c'était très difficile de retrouver quelqu'un à qui c'était arrivé. Et lorsque j'ai retrouvé quelqu'un, parce que quand même je suis resté 3 ans avec les pieds noirs, on va dire, on finit par trouver quelqu'un. Ça devient très compliqué. Je donne le texte intégral dans... En fait, on ne sait pas trop si c'était les dockers. Ils ont retrouvé leur cadre qui était ouvert sur les docks. Mais peut-être c'est la pluie qui est rentrée. Bon, enfin, ça devient un embrouillage tel. À la fin du compte, on se dit peut-être qu'il y a eu quelques mauvaises manœuvres. Ça, pourquoi pas, hein, devant des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de cadres. Peut-être qu'il y a quelques dockers qui ont... dérapé, mais que ce soit massif, certainement pas. On trouve ça dans beaucoup de livres écrits par des pieds noirs. Hein. Un autre élément, alors donc les pieds noirs, ils étaient très remontés. Bon, alors certains sont amatés, comme les Italiens et les Espagnols, mais d'autres ont réagi, et dès qu'ils se sentaient traités de sales pieds noirs ou tout ça, vraiment, ça devenait méchant. Mais il y a un autre élément qui a joué, c'est les différences culturelles. Les différences culturelles, me semble-t-il. Les pieds noirs, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des pieds noirs, c'était des pieds noirs des villes et pas des pieds noirs des champs. La plupart, ils venaient d'Oran, ils venaient d'Alger ou de villes assez importantes, Mostaganem, etc. Ou ils venaient de ce qu'ils appellent mon village, comme mon copain Yvon qui vient de Rio Salado. Mais c'était des gros villages où ils étaient des centaines d'Européens, peut-être 1000 ou 1500 à Rio Salado, et il y avait 3 000 à 4 000 indigènes, on va dire, à côté. Donc, et c'était des constructions assez modernes. Donc ces gens-là, ils avaient le tout à l'égout très souvent, ils avaient des WC à l'intérieur. C'est une chose importante, parce que quand ils arrivent ici, ils cherchent des maisons dans les villages, à louer ou à acheter, ou à louer par exemple pour dans ces cas, et où sont les toilettes? Où sont les toilettes? J'arrive pas très bien à refaire leur accent. Je ne sais pas ce que vous, les villages ici en 1960, des WC à l'intérieur des maisons, il n'y en a pas. Quasiment pas. Pour les familles aisées, c'est le cagadou, hein, ceux qui ont une cour et au fond le petit cabiston. Pour beaucoup d'autres, c'est le seau qu'on va vider sur le tas de fumier, ou on va faire ça, on va vider dans l'écurie, ou on va vider à c'est ma mère, j'en discutais récemment, il y en a quelques-uns qui allaient vider dans la rivière. C'était l'écologie à l'ancien temps. Quoi. Et alors, quand les pieds noirs arrivent, ils disent « Mais où sont les toilettes ?» Les gens disent « Il n'y en a pas. » Mais comment, il n'y a pas de toilettes ? Imaginez-vous, vous, c'est facile de comprendre leur point de vue, vous vivez avec des toilettes. Imaginez que vous alliez dans un pays, vous êtes démunis, vous arrivez, vous, pas en voyage en sachant où vous allez. Hein. Vous croyez que vous arrivez dans le pays de grande civilisation, parce que pour eux, la France, c'était Versailles, c'était Chambord, la Tour Eiffel et tout ça. Vous arrivez, il n'y a pas de toilettes. Pour vous, c'est... Mais vous arrivez dans la pacoule complète. Ils vous le disent, pour nous, c'était le Moyen-Âge. Tout comme d'ailleurs, quand ils voient les bio courir dans les vieilles rues, le taureau à la corde. Ça se pratiquait encore. Quand ils voient le taureau à la corde dans les vieilles rues du village... C'est le Moyen-Âge complètement. Et alors, ils auraient pu ne pas le dire, mais ils le disent. Alors, vous comprenez. Et alors, pour les paysans de chez nous, pour mes parents, par exemple, ces gens, ils arrivent, ils n'ont rien et ils nous font la leçon. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, ça explique que ce malentendu persiste encore aujourd'hui. Les problèmes économiques, ils ont fait monter le prix des terres, des trucs comme ça. 50 ans après, ça n'existe plus. Ils ont freiné les mutations aussi, bien sûr, parce qu'il a fallu les caser. Mais à mon sens, il y a eu des humiliations. L'histoire des cagadous, l'histoire de la tenue vestimentaire, par exemple, j'arrêterai là. La tenue vestimentaire, ces gens-là, ce sont des gens de la ville. Et en plus, beaucoup d'entre eux viennent de l'Oranie, ou ce sont des Espagnols, allez, on va dire hein, comme ça. Ils viennent d'Espagne. Donc, ils ont la coutume des Espagnols. C'est-à-dire, le soir, d'abord, dans la journée, on ne vit pas, on ne se traîne pas avec des pantalons pétassés. Alors que les paysans de mon village, ils avaient des pantalons pétassés et que la bonne ménagère, elle devait avoir à cœur de pétasser les pantalons pour économiser. Il ne fallait pas dégavailler, hein, on vous dit. Et donc, il n'y avait jamais de pantalons, les pieds noirs n'avaient jamais de pantalons pétassés. Et le soir, ils se changeaient, ils étaient les plus beaux du village. En plus de ça, en plus d'être les plus beaux du village, ils avaient, pour certains, une tchatche pas possible pour les jeunes pieds noirs. Et il faut dire qu'ils séduisaient les filles. Ah ben ça, c'est sûr. Alors, moi, j'adore c'est parler. Le parler dans mon village, ils vous disent, il est dévarié. Parce que les garçons, à l'époque, les garçons, vous savez, ils se conduisaient de façon très rustique avec les filles. C'était la drague à l'ancienne, hein, les bonnes bourrades, les trucs comme ça. Pour les garçons, c'était les bio, c'était le pastis, etc. Et voilà que les pieds noirs, ils enveloppent, ils tchatchent, etc. Et ils rastellent. Et simplement, j'en viens à quelques conclusions qui vont ouvrir sur mes recherches à venir. Mes conclusions, d'abord, les pieds noirs ont été traités comme des étrangers. Ils ont été traités comme des étrangers. Mais finalement, ce n'est pas surprenant. Ma mère, qui est arrivée de Saint-Étienne-d'Escat à Montpezat, elle était une étrangère. Les Cévenols qui venaient au-dessus de Quissac, ils étaient de Sauve de Saint-Hippo, ils étaient traités comme des étrangers. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce que les pieds noirs sont traités comme des étrangers? Si vous dites ça à un pied noir, vous le blessez cruellement. Parce que pour lui, étranger, c'est étranger au sens de tu es pas français. Je prends du temps, j'ai passé beaucoup de temps avec les pieds noirs. C'est quelque chose que je n'arrive pas à leur faire comprendre. Je leur dis, mais les Cévenols, oui, ils étaient français, tout comme vous. Pour nous, c'était des étrangers. Bon, ils ne peuvent pas l'entendre. Voilà, ils ne peuvent pas l'entendre. Alors pourquoi? Ça, c'est intéressant. Un jour, peut-être, je vous dirai pourquoi. À mon sens, il y a une souffrance telle chez eux qu'il y a des choses, qu'il y a des blocages à certains moments. Mais bon, ça serait un débat passionnant. J'espère que j'aurai l'occasion de discuter avec des pieds noirs, et des assemblées pieds noirs, et qu'on essaiera de comprendre. C'est sûr qu'il y a quelque chose à comprendre. Autre chose aussi, concernant l'intégration. Alors, un jour, je ferai ma synthèse. Quand j'aurai travaillé sur les Maghrébins, un jour, j'essayerai de faire une synthèse sur l'intégration. Mais le moment n'est pas venu. Mais il y a quelque chose qui me trouble. C'est que, j'entends que pour bien s'intégrer, pour s'intégrer rapidement, il vaut mieux être semblable. Dans une certaine mesure, l'histoire des pieds noirs accréditerait cela. Le fait qu'ils soient semblables, ils parlent français, même au niveau socio-économique, etc., favorise les mariages, ça c'est sûr. Mais en même temps, Le fait qu'ils soient semblables fait que les artisans pieds noirs deviennent des concurrents des artisans français. Ils sont, pour l'obtention de certains postes, ils sont en concurrence avec nous. Pour les mutations, ils sont en concurrence avec nous. Pour les filles, enfin, je me place de mon point de vue macho, bien sûr. Pour les filles, ils sont, parce que moi, je me suis fait souffler une fille par un pied noir, donc il faut que ce soit dit. Je me rappelle des pieds noirs d'Avignon. Je ne sais pas ce qu'ils venaient foutre d'Avignon dans mon village. Ils arrivaient avec leur petite fiat, là. Et ils nous ont enlevé deux filles. Nous, on les promenait en mobylette. Bon, il y avait inégalité des chances. Donc, j'ai souffert. Hein. Donc, le fait qu'ils soient semblables favorise l'intégration, mais en même temps, ça crée des tensions, si vous voulez. Ça crée des tensions. Sur le plan agricole, ils ont soufflé des terres à des paysans d'ici. Quand il y avait des domaines un peu abourris, comme on dit, un peu abandonnés, le paysan du village convoitait cette terre-là qu'il voulait acheter pour 4 sous. Le pied noir arrive, il achète pour 6 sous, 8 sous, quoi. Il achète et ça crée des jalousies pas possibles, surtout si le domaine devient très beau. Et comme les pieds noirs ont beaucoup travaillé, etc. Bon, enfin, le fait d'être semblable a en même temps multiplié, les clivages, hein, les remarques qu'ils font à l'égard des cagadous qu'ils se permettent de faire, etc. Alors que les Italiens et les Espagnols, qui étaient somme toute différents, se sont intégrés plus lentement. Mais si vous interrogez maintenant, il n'y a absolument aucun contentieux à l'égard des Espagnols et des Italiens. Aucun. L'intégration est parfaite. Si vous voulez, vous entendez, ouais, des fois, une grand-mère va dire, ça c'est bien italien, pour dire qu'il est un peu fréluqué, vous savez, ou c'est un peu espagnol, qui s'habille bien. Ma mère me envoie un qui est un peu bagouze, un truc comme ça, une belle chemise. Elle dit, oh, mais ça doit être un italien, ça. Bon, mais ça va pas loin, ça va pas loin. On n'entend pas du tout les mêmes choses qu'on entend à l'égard des pieds noirs.
Las conferències de la 30a Universitat Occitana d'Estiu registrada e prepausada per Radio Languedoc. Era la conferència del senyor René Domergue, sociòleg, que nos presentava l'arribada des Pennegres d'Ingar.